Annabelle, Antibes, samedi 13 mai 2017. Je m'appelle Annabelle de Galais. Je suis née en Italie à la fin des années 1940, dans un petit village du Piémont. Et les minutes qui vont suivre sont peut-être les dernières de ma vie. Lorsque le 25 décembre dernier, Francis m'a téléphoné en pleine nuit avant de rendre l'âme, il n'a eu le temps que de prononcer un bout de phrase. Protège Thomas et Maxime. J'ai compris cette nuit-là que le passé était de retour, avec son cortège de menaces, de dangers et de morts. Plus tard, en lisant les articles de journaux qui racontaient les souffrances que Francis avait dû endurer avant d'expirer, j'ai compris également que cette vieille histoire ne pourrait se terminer que comme elle avait commencé, dans le sang et la peur. Pendant 25 ans, nous avions pourtant réussi à tenir le passé à distance. Pour protéger nos enfants, nous avions fermé toutes les portes à double tour, en veillant à ne laisser aucune trace derrière nous. La vigilance était devenue notre seconde nature, même si avec le temps notre méfiance avait perdu de son caractère maladif. Certains jours, l'inquiétude qui m'avait tenaillé tant d'années semblait même s'être évaporée. J'ai baissé la garde, forcément. Et j'ai eu tort. La mort de Francis a failli me tuer. Mon cœur s'est déchiré. J'ai cru que je partais. Lorsqu'on m'a conduite à l'hôpital, dans l'ambulance, une partie de moi avait envie de lâcher prise et de rejoindre Francis. Mais une force de rappel m'a rattaché à la vie. Je devais me battre encore pour protéger mon fils. Le retour de la menace m'avait arraché Francis, mais il ne me prendrait pas Thomas. Mon dernier combat serait de terminer le travail, c'est-à-dire d'anéantir l'individu qui met en péril l'avenir de mon fils, et de lui faire payer la mort du seul homme que j'ai jamais aimé. Après ma sortie de l'hôpital, je me suis replongé dans mes souvenirs, et j'ai mené ma propre enquête pour comprendre qui, après tant d'années, pouvait vouloir se venger, avec une violence, une hargne et une détermination effrayantes. Je ne suis plus toute jeune, mais j'ai encore les idées claires. J'ai eu beau consacrer tout mon temps à chercher des réponses à mes questions, je n'ai pas trouvé la moindre piste. Tous les protagonistes qui auraient pu avoir des velléités de vengeance étaient morts ou très vieux. Quelque chose que nous ignorions venait gripper l'engrenage paisible de notre vie et menaçait de la faire dérailler. Vinca était parti en emportant un secret. Un secret dont l'existence même nous avait échappé et qui refaisait surface aujourd'hui en semant la mort sur son passage. J'ai cherché partout, mais je n'ai rien trouvé. Jusqu'à ce que, tout à l'heure, Thomas ressorte de vieilles affaires du sous-sol et les étale sur la table de la cuisine. Soudain, l'évidence m'a sauté au visage. J'avais envie de pleurer de rage. La vérité était là, sous nos yeux, depuis si longtemps, masquée par un détail qu'aucun de nous n'avait su voir. Un détail qui changeait tout. Il fait encore jour lorsque j'arrive au cap d'Antibes. Je m'arrête devant une façade blanche qui donne sur le boulevard de Bâcon, mais qui ne laisse pas deviner grand-chose de la taille et de l'étendue de la maison. Je laisse ma voiture en double file et sonne à l'interphone. Un jardinier en train de tailler les haies me dit que la personne que je cherche est allée promener ses chiens sur le sentier de tire-poil. Je reprends la route pour quelques kilomètres jusqu'au petit parking de la plage Keller, à l'intersection du chemin de la Garoupe et de l'avenue André Sella. L'endroit est désert. J'ouvre le coffre pour prendre le fusil que j'ai emprunté à Richard. Pour me donner du courage, je repense aux parties de chasse le dimanche matin, en compagnie de mon père adoptif dans les massifs forestiers. J'adorais l'accompagner. Même si on ne se disait pas grand-chose, c'était un moment partagé qui avait plus de sens que de longs discours. Je me souviens avec affection de Butch, notre setter irlandais. Toujours à l'affût des perdrix, des bécasses et des lièvres, Il n'avait pas son pareil pour les approcher et les fixer avant que nous puissions les tirer. Je soupèse l'arme, caresse sa crosse en noyer huilé et m'attarde un instant sur la finesse des gravures qui ornent le fusil. D'un déclic, j'ouvre la bascule en acier et fais entrer deux cartouches dans la chambre. Puis je m'engage sur le chemin étroit qui borde les flots. Au bout d'une cinquantaine de mètres, une barrière dissuade d'aller plus loin. Zone dangereuse, accès interdit. La faute aux coups de mer de mercredi dernier qui ont dû provoquer des éboulements. Je contourne l'obstacle en sautant sur les rochers. L'air marin me fait du bien, et le panorama éblouissant qui porte jusqu'aux Alpes me rappelle d'où je viens. Au détour du rivage escarpé, j'aperçois la silhouette grande et élancée de l'assassin de Francis. Les trois gros chiens qui l'entourent avancent en meute dans ma direction. J'épaule mon fusil. Mon regard glisse vers ma cible. Elle est dans ma ligne de mire. Je sais que je n'aurai pas de seconde chance. Lorsque le coup claque, clair, bref et rapide, tout me revient dans la gueule. Montaldiccio, les paysages de l'Italie, la petite école, la place du village, les insultes, la violence, le sang, la fierté de rester debout, le sourire désarmant de Thomas lorsqu'il avait 3 ans, l'amour au long cours d'un homme différent des autres. Tout ce qui a compté dans ma vie.